Les années incandescentes, troisième épisode. Paris, le 3 juin 1895. Ma chère Mamakam, je ne parviens malheureusement pas à t'écrire plus de 3 fois par semaine. Mon travail de correspondant de presse est harassant. Malgré les 14 à 16 heures de travail quotidien, le directeur du journal trouve toujours que je ne réponds pas assez vite à ses demandes. Il ne cesse de répéter « Même si vous n'avez pas le temps d'analyser les faits, envoyez-nous au moins les informations brutes !» Concernant Julie, je te promets de lui parler à nouveau. Je suis d'accord avec toi. Sa conduite est indigne. Elle doit te montrer plus de respect et t'écouter. Tu sais bien que je suis de ton côté depuis toujours et j'enrage qu'elle soit aveugle à ta dévotion et à celle de mon papa bien-aimé. Ton fils qui t'aime, Théodore. Paris, le 6 juin 1895. Mon cher Heinrich, mon esprit est en constante ébullition et je ressens souvent de très forts maux de tête. Les idées font irruption en moi comme un volcan. J'ai imaginé un remède. Pour détourner le sang de la tête, je vais commencer à prendre le vélo. Sinon, je ne mènerai pas ce travail jusqu'au bout. Je t'avais indiqué dans ma dernière lettre que je voulais présenter mon idée au baron de Hirsch. Cet homme qui s'occupe des Juifs de manière si spectaculaire, en millionnaire qu'il est, en créant des colonies agricoles juives en Argentine. Voici la lettre que je lui ai écrite. Cher monsieur, quand pourrais-je avoir l'honneur de vous rendre visite? Je voudrais m'entretenir avec vous de la question juive. Il ne s'agit pas d'une interview, pas plus que d'une affaire d'argent, déguisée ou non. Vous êtes extrêmement sollicité, et c'est pourquoi je tiens à vous enlever à l'avance tout soupçon portant sur la pureté de mes intentions. La seule chose que je souhaite, c'est d'avoir avec vous un entretien politique à propos des Juifs. Entretien qui aura peut-être des répercussions plus tard, à une époque où vous et moi ne serons plus là. Je suis sûr que mon projet vous intéressera. Ce que vous avez fait jusqu'à présent avec vos colonies en Argentine était généreux autant qu'infructueux, coûteux autant qu'inutile. Jusqu'ici, vous n'avez été qu'un philanthrope, un homme charitable. Je veux vous indiquer le moyen d'être plus que cela. Cependant, n'allez pas croire que je ne suis qu'un faiseur de projets ou un fou d'un nouveau genre. J'admets à l'avance la possibilité que je me trompe et j'accepte les objections. Je ne m'attends pas à vous convaincre sur le champ, car il vous faudra changer votre mode de pensée sur un certain nombre de points. Tout ce que je souhaite, c'est que vous me consacriez toute votre attention, bien que je sois probablement un inconnu pour vous. Signé, Dr. Théodore Herzl. Paris, le 10 juin 1895. Mon cher Heinrich, cela a fonctionné. Le baron de Hirsch accepte de me rencontrer. Le matin du rendez-vous, je m'habillais avec un soin discret. J'avais intentionnellement porté la veille une paire de gants que je venais d'acheter, de manière à les user un peu. Il fallait qu'ils aient l'air encore neufs, mais non pas sortant de la boutique. Il ne faut pas donner trop d'honneur aux riches. Le baron me fit entrer dans son bureau. Je lui dis d'emblée, « Disposez-vous d'une heure pour moi ? Si ce n'est pas au moins une heure, je préfère ne pas commencer. C'est en effet le temps dont j'ai besoin, ne serait-ce que pour commencer à exposer tout ce que j'ai à dire. » Le baron sourit et me dit, « Allez-y, commencez. » Parmi les idées que je vais vous exposer, certaines vous paraîtront trop simples, d'autres trop fantaisistes. Et pourtant, c'est avec des idées simples et fantaisistes que l'on mène les hommes. Il est étonnant de constater à quel point le monde est gouverné avec peu d'intelligence. Il faut dire que je n'étais nullement préparé à m'occuper de la question juive. De votre côté, vous ne pensiez pas non plus à vous faire le protecteur des Juifs. Vous étiez banquier, vous faisiez de grandes affaires. Vous avez fini par consacrer votre temps et votre argent à la cause des Juifs. Pour ma part, à l'origine, j'étais écrivain et journaliste et je ne pensais pas spécialement aux Juifs. Cependant, mes expériences, mes observations, la pression croissante de l'antisémitisme m'ont forcé à m'occuper du problème. En premier lieu, c'est le principe de charité que je tiens pour complètement erroné. Vous fabriquez des mendiants, des schnorreurs. Comparez aux 10 millions de juifs vivant aujourd'hui en Europe, avec 20 000 juifs que vous envoyez en Argentine, vous ne prouvez encore rien, même si ces gens réussissent bien. En revanche, si l'expérience échoue, ce sera une preuve terrible contre les juifs. Mais je m'arrête de critiquer. Que faut-il faire en réalité ? Il a fallu 40 ans à Moïse pour arriver à la terre promise. Pour nous, ce sera peut-être 20 ou 30 ans. D'ailleurs, Moïse avait oublié d'emporter d'Égypte les marmites. Nous nous en souviendrons. Pendant la phase de préparation de cet exode, je propose d'élever le niveau moral des juifs. Nous avons encore une mentalité d'assisté, de ghetto. Pour cela, vous pourriez offrir des primes d'une valeur considérable dans les principaux pays où sévit l'antisémitisme. Pour des actions d'éclat, pour des actes d'une grande beauté morale, pour le courage, le sacrifice, les grands accomplissements dans l'art et la science, bref, pour tout ce qui est grand. Cette prime visera un double objectif. Premièrement, l'amélioration de tous les juifs. Deuxièmement, la publicité, car on en parlera partout et l'on apprendra ainsi qu'il existe des juifs excellents et qu'il en existe beaucoup. Le baron m'interrompit alors brusquement. Non, non et non, je ne tiens pas du tout à élever le niveau. Nous avons trop d'intellectuels. Mon intention est de mettre un frein à l'arrivisme des juifs, qu'ils ne fassent pas de trop grands progrès. Toute la haine qu'on leur porte vient de là. Au bout de quelques années, je pourrai montrer au monde qu'avec mes colonies agricoles, contre toute attente, les Juifs peuvent faire de bons agriculteurs. Cela aura peut-être pour effet que, même en Russie, on les laissera travailler dans les champs. Je me rends bien compte que vous êtes un homme intelligent, mais vous avez des idées si fantaisistes. Je suis d'accord avec vous pour l'émigration, qui est la seule solution. Il y a d'ailleurs suffisamment de terres à acheter en Argentine. Ma réponse au baron fut cinglante. Ne vous ai-je pas dit, en commençant, que mes idées allaient vous paraître trop simples ou fantaisistes ? Vous ne savez pas ce que c'est que la fantaisie, et vous ignorez qu'il faut prendre de la hauteur pour observer les grands traits des hommes. J'irai trouver l'empereur d'Allemagne. Lui me comprendra, car il a été éduqué à apprécier les grandes choses. Je lui dirai « Laissez-nous partir. Nous sommes des étrangers. On ne nous laisse pas nous dissoudre dans la population. Et d'ailleurs, nous ne le pouvons pas. Laissez-nous partir. Je vous indiquerai les moyens et les voies que j'utiliserai pour l'exode, afin qu'aucune perturbation économique, aucun vide ne se produise à la suite de notre départ. » Très bien, docteur Herzl. Et où prendrez-vous donc l'argent ? Voulez-vous le demander à Rothschild, qui soutient l'établissement de colonies juives en Palestine ? Il y souscrira pour 500 francs. Monsieur le baron, je ne m'attendais pas à votre conversion immédiate. Deuxièmement, mon projet n'est absolument pas fondé sur votre seule personne. Pour gagner du temps, j'aurais aimé vous utiliser, car vous représentez une force qui existe et qui est connue. Mais vous n'auriez été que la force avec laquelle j'aurais commencé. Il y en a d'autres. Il y a enfin et surtout la masse des Juifs, vers laquelle je saurais trouver un chemin. Ma plume est une puissance. Vous vous en rendrez compte. Vous êtes par excellence le Juif de l'argent. Je suis le Juif de l'esprit. Il est normal que vous m'ayez écouté avec une discrète ironie. C'est ce que j'avais prévu. Je vous l'avais dit dans mon entrée en matière, C'est ainsi que sont accueillies les idées nouvelles. N'ayez pas de prévention à mon égard, du fait que je suis un homme relativement jeune. À mon âge, à 35 ans, on est ministre en France, et Napoléon était empereur. Avec une ironie polie, vous m'avez coupé la parole. Je me laisse encore déconcerter au cours d'une conversation. Je n'ai pas encore assez d'aplomb, mais cela viendra. Cet aplomb est nécessaire à qui veut briser les résistances, ébranler les indifférents, redresser ceux qui sont à terre, enthousiasmer un peuple vol et dégénéré, et fréquenter les maîtres du monde. Je sais bien ce qu'il faut pour exécuter mon projet, de l'argent et encore de l'argent. Mais j'aurais dû vous dire aussi, à la fin, quel drapeau je compte déployer et comment. Vous m'auriez dit alors d'un air moqueur, « Un drapeau? Qu'est-ce que c'est? Un bâton avec un bout de tissu ?»« Non, cher monsieur, un drapeau, c'est plus que cela. Avec un drapeau, on mène les hommes où l'on veut, même vers la terre promise. Ils vivent et meurent pour un drapeau. C'est même la seule chose pour laquelle ils soient prêts à mourir collectivement, pour peu qu'on les éduque dans ce sens. Croyez-moi, la politique d'un peuple tout entier, surtout s'il est, comme les Juifs, dispersé partout dans le monde, ne peut être faite qu'avec des impondérables qui flottent très haut dans les airs. Savez-vous comment est né l'Empire allemand ? À partir de rêves, de chants, de fantasmes et de rubans noirs, rouges et or. Et ceci en un temps très bref. Bismarck n'avait plus qu'à secouer l'arbre planté par les visionnaires. Comment ? Vous ne comprenez pas ce qu'est l'impondérable ? Et qu'est-ce donc que la religion ? Pensez à tout ce que les Juifs ont accepté de subir depuis 2000 ans pour ce fantasme. Car seul ce qui relève du fantasme émeut vraiment les gens. Celui qui ne comprend pas cela, même si c'est quelqu'un d'excellent, d'honnête et de sensé, et même si c'est un bienfaiteur de grande classe, ne mènera jamais les hommes et ne laissera aucune trace dans l'histoire. Voulez-vous faire un pari avec moi ? Je vais lancer un emprunt national auprès des Juifs. Voulez-vous vous engager à y contribuer pour 50 millions de marques lorsque j'aurai trouvé les 100 premiers millions ? En échange, je ferai de vous le chef du mouvement. On trouve de l'argent juif en grande quantité pour un emprunt chinois, pour des chemins de fer en Afrique, pour les entreprises les plus aventureuses. Et l'on n'en trouverait pas pour les besoins les plus profonds, les plus directs, les plus pressants des Juifs eux-mêmes. L'entretien avait assez duré. J'étais épuisé. Je remerciai le baron pour le temps précieux qu'il m'avait accordé et je prenais congé. Voilà, Heinrich, en résumé, la teneur de ma conversation avec le baron de Hirsch. Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Vous êtes par excellence le juif de l'argent. Je suis le juif de l'esprit. Quelle arrogance ! Moi qui veux rassembler le peuple juif, je me fais un ennemi du premier juif influent que je tente de convaincre. Et pourtant, je sais que j'ai raison. La vérité est que pour le moment, on ne peut rien faire pour les juifs. Si quelqu'un leur montrait la terre promise, ils se moqueraient de lui. Mais je sais où se trouve cette terre-là, en nous-mêmes, dans notre capital, dans notre travail et dans la combinaison particulière des deux que j'ai conçus. Mais nous devons descendre encore plus bas, être davantage insultés, couverts de crachats, raillés, roués de coups, pillés et massacrés, avant que nous soyons mûrs pour cette idée-là. Pour l'heure, nous devons continuer à supporter, en haut de l'échelle, les affronts de la société où nous cherchons à nous introduire. Au sein des classes moyennes, les pressions économiques dans les professions que nous occupons et dans les couches inférieures, la misère la plus noire. Nous ne sommes pas encore assez désespérés. C'est pourquoi l'arrivée d'un sauveur ferait rire. Rire, vraiment, même pas. Sourire seulement. Car chez nous, on n'a même plus la force de rire. Il y a là un mur, Au-delà, je le sais, il y a la liberté et la grandeur. Cependant, je ne peux pas percer ce mur, pas avec ma seule tête, et je n'ai pas d'autre outil. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Sur le plan pratique, l'affaire est terminée pour moi. Du point de vue théorique, je continue à y croire fermement. Peut-être cela prouve-t-il que je suis simplement un juif déchu, comme les autres. Pour une idée d'une telle force, un chrétien irait jusqu'au bout. Que veux-tu, Heinrich ? Je ne veux pas avoir l'air d'un Don Quichotte. Toutefois, je n'accepte pas non plus les petites solutions de rechange, ni ces quelques juifs en Argentine, ni la conversion des juifs au socialisme par désespoir, car je ne suis pas non plus un Sancho Panza. J'ai décidé de m'adresser à Bismarck, le chancelier de fer qui a unifié l'Allemagne. Seul cet homme est assez grand pour me comprendre ou me guérir. Ton ami de toujours, Théodore. Inspiré du journal de Théodore Herzl, traduit de l'allemand par Paul Kessler, et de la biographie consacrée par Serge-Alain Rosenblum, sur des musiques originales de Frédéric Schumann et Freddy Minck, un mixage réalisé par Xavier Dreyfus, un visuel conçu par Fabienne Wacknin, l'idée originale du podcast a été développée par Patrice Kemoun.